Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 38. Aujourd'hui au programme, on va parler de J'ai perdu mon corps. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, je tourne moi ma petite équipe de manchots. J'ai nommé Cédric, Marie, Armand et Fiona. J'ai perdu mon corps, écrit par Jérémy Clapin et Guillaume Laurent, et c'est Marie qui nous le pitch.
Alors à Paris, une main tranchée réussit à s'échapper d'une salle de dissection et part dans la ville, visiblement à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Et de son côté, Naoufel est un jeune livreur de pizza paumé dans sa vie. Il fait la connaissance de Gabriel, dont il tombe amoureux. Mentant sur son identité, il réussit à se faire embaucher comme apprenti menuisier par l'oncle de la jeune fille. Et à son contact, il apprend le métier, se rapproche de Gabriel et donne un nouveau tournant à sa vie.
Donc on va commencer par les personnages et évidemment Naoufel. Naoufel, pardon. Marie,
Naoufel.
Naoufel. Alors Naoufel, c'est plus qu'un héros, c'est trois héros dans le film finalement. Parce que c'est Naoufel aujourd'hui, dans sa vie, où voilà, il se fait embaucher comme apprenti menuisier. C'est aussi Naoufel dans le passé, quand on voit son enfance avec ses parents dans un pays du Moyen-Orient. Et c'est aussi cette main qui se promène, c'est la salle de Naoufel. Et donc je trouve qu'à la fois, ces trois personnages sont très bien écrit, très bien construit, on les apprécie tous les trois autant, spéciale mention quand même à cette main qui réussit à nous faire passer des émotions, une main tranchée alors que franchement dès les premières images c'est un peu choquant et après on est très vite.
La chose y arrivait très bien dans la famille Adams, hein. C'est pas une première. Hein.
Ben oui, mais là c'est très bien fait et je trouve que ces trois personnages dressent un portrait extrêmement complet, complexe, très touchant d'un seul héros et je trouve ça très fort.
Fiona.
Moi je le trouvais assez mignon et assez attachant et assez crédible. Surtout ce Naoufel qui a plein de rêves d'être astronaute, d'être pianiste et qui se retrouve livreur.
Mauvais livreur en plus.
Est-ce que t'as pas eu l'impression de revoir le film de Ken Loach où des fois le sort s'acharne personnes?
Non mais après voilà, moi j'ai pas grand chose à dire sur le personnage, il est bien. Alors là bon, c'est les dialogues en règle générale, mais du coup comme il n'y a pas beaucoup de personnages qui parlent, enfin il est bien dialogué, il est complètement crédible ce personnage.
Oui, mais j'ai surtout beaucoup aimé sa façon de draguer la fille. Justement, il aurait pu. Alors, je crois que j'ai mis longtemps avant de comprendre que le film se passait.
Tu veux dire,
passé,
la stalker ?
Non, justement, il la stalke très intelligemment. C'est-à-dire qu'il la suit, il vérifie où elle travaille, et ensuite, au lieu de la draguer normalement, il va quand même jusqu'à se faire embaucher et construire un igloo. C'est quand même hyper mignon de réussir à trouver l'intérêt de sa fille. Et justement, qu'est-ce que vous avez pensé de Gabriel, Cédric ?
Bah, elle est assez esquissée dans le film, elle n'est pas très présente en fait.
Oui, mais quand même, ils ont mis un caractère, encore une fois, de fille qui se laisse pas faire, de fille plutôt moderne, même si ce film se passe dans les années 90. Ouais. Elle est un peu dans son monde avec ses écouteurs, elle est très altruiste, elle aide des gens, elle aide les grands-mères. Dans la scène que moi j'ai trouvé vraiment bien, la scène de rencontre à travers l'interphone.
Ouais, la fameuse scène de l'interphone.
Naoufel est extrêmement calme parce que j'étais persuadé qu'il avait pété les plombs. Elle dit bah, vous n'aurez pas de pourboire, c'est 40 minutes, la porte il souffle pas. Et le dialogue entre les deux est plutôt bien fait.
Ouais.
Et elle est caractérisée comme une fille très gentille parce que même il y a la grand-mère qui arrive. Ah, bah, je vous rends des bouquins. Ensuite, elle aide son grand-père qui est malade.
Son oncle, oui.
Son oncle, pardon. Elle est adorable cette fille.
Mais je trouve qu'elle est surtout caractérisée justement dans cette scène. Est intéressante dans cette scène de l'interphone. Et après. On l'oublie un peu, moi. Je l'ai trouvé effacé, quoi.
Ah, oui. Oh, je vous trouve dur, Armand. Oui, pareil, oui, tu trouves qu'elle est effacée.
Je suis d'accord avec ça. Oui, bizarrement, alors qu'on la voyait pas dans cette scène de l'interphone, elle était très présente. Après, je l'ai trouvée un peu, tu vois, elle est attachante parce qu'elle est très gentille et oui, serviable avec son entourage et qu'effectivement, elle se...
Mais c'est plus la mémoire de l'interphone, je trouve, ouais, nous raccroche à ça plutôt
exactement.
Que.
Il n'y a pas de moment mémorable avec elle quand elle est présente à l'image, je trouve. C'est dommage.
C'est pas faux, Marie.
Bah, je suis pas tellement d'accord avec cette analyse parce que effectivement, moi, je trouve qu'il y a trois héros dans ce film et c'est trois fois Naoufel. Et c'est vrai que il y a peu de place pour d'autres personnages. Et d'ailleurs, moi, je suis d'accord avec le fait qu'elle soit peu esquissée, mais je trouve ça utile à l'histoire. Et ce qui est assez appréciable dans ce film, c'est que c'est un film concentré. C'est un film qui s'éparpille pas du tout. On reste focus sur cette histoire. Les trois se rejoignent à la fin de manière sublime. Et donc, mine de rien. Je trouve pas ça si gênant que ça.
Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de place, en fait.
Oui, non, je pense que les scènes, elles sont là.
Il suffit d'une réplique ou deux de temps en temps.
Exactement.
Bien senti,
exactement. Elle le fait un petit peu quand elle lui enlève les échardes. Elle a une petite réplique, je ne sais plus laquelle, mais une petite réplique piquante en disant ouais, t'es sûr que tu vas te menuiser. Bon. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'à chaque fois qu'il la rencontre, même sur son bouquin préféré,
une magie qui s'opère.
Qu'on ressent qu'elle soit vive comme elle était à l'interphone.
En fait, on retrouve la personne
de l'interphone. Ouais. Ouais.
Bon, et on a une question pour vous, les deux filles. Si vous avez été à la place de Gabrielle dans l'igloo, vous auriez agi comme elle ? Vous seriez barré ou vous auriez trouvé ça trop mignon ?
Alors, pour moi, ça ressort de l'intrigue. Mais je trouve que justement, c'est très bien fait cette fin qui est pas vraiment très heureuse. Je trouve qu'il n'atteint pas son objectif, mais il atteint son enjeu. Parce qu'effectivement, quand tu commences une relation par un énorme mensonge, tu peux pas t'attendre à ce que ça se termine bien. Et c'est plutôt bien fait, je trouve, que ça ne se termine plutôt... Enfin, que cette idylle se termine mal. En revanche, il a réussi son enjeu parce qu'il a réussi à retrouver un élan dans sa vie.
Mais comme il a dit, il aurait fait comment ? Il aurait dit « Salut, c'est moi le mec de la pizza, je t'ai suivi ».
Non, mais alors, je trouvais cette scène intelligente sur l'igloo et le moment où la révélation, parce qu'effectivement, je pense, alors ça dépend des filles, hein, je pense, nous ne sommes pas toutes pareilles, Guillaume. Personnellement, j'aurais trouvé ça absolument adorable et je me serais dit un petit peu bizarre, mais quand même adorable. Et à part, j'aurais peut-être dit c'est bizarre, il m'aurait dit ouais, mais tu veux que je fasse quoi ? J'aurais été d'accord. Mais là, ce qui est intelligent, je trouve, c'est qu'elle s'énerve pas par rapport à cet igloo, elle s'énerve par rapport à son oncle. En lui disant,
le mensonge
est répercuté sur son oncle en disant, mon oncle il est malade. Et en gros, tu t'es fait engager, tu l'as amadoué, du coup, il a un apprenti, et il devrait arrêter de travailler, son oncle, etc., etc. C'est par rapport à son oncle qu'elle est énervée.
Mm-hmm. C'est une bonne remarque.
C'est la première chose qu'elle dit, quasiment. Oui, elle dit, et mon oncle, tu l'as fait engager, il est malade, t'es con, enfin voilà.
Très bien, alors on va parler maintenant de cette petite main, parce que comme tu dis, c'est le troisième personnage de ce film. Alors au début du film, moi j'ai cru qu'en fait l'œil qui tombait, ça lui permettait de voir. Et comme ça, parce que je me suis dit, ah d'accord, donc il voit, parce que la main c'est pas trop allé, donc je me suis dit, ah c'est l'œil. Et quand il commence à partir, la main, je dis, mais alors du coup elle est aveugle, elle voit plus rien. Non, en fait la main voit très bien.
Là il faut accepter que c'est une fable.
Alors du coup, c'est une fable, alors je vais vous poser une question très concrète, est-ce que cette main existe, oui ou non ?
Je pense que la question se pose pas. C'est une fable, oui, elle existe, et elle voit et elle a des sentiments et un cœur qui bat alors que c'est une main. À partir du moment où t'as une main qui se met à bouger toute seule, je pense que tu peux accepter qu'elle voit même si elle a pas.
Non, mais ça d'accord, mais est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle a vraiment fait ce chemin ? Est-ce qu'elle a vraiment croisé ce gosse ? Est-ce qu'elle a vraiment croisé ce clodo ? Est-ce qu'elle est rentrée chez
lui ? C'est bien de pas répondre à cette question, justement, même quand la main retrouve son propriétaire. Il n'y a pas vraiment de retrouvailles, enfin tout est esquissé, mais il est en train de dormir, elle reprend sa place.
Mais du coup, comme il est en train de dormir, je me suis dit, en fait, il est en train de rêver de tout ça.
Peut-être, mais moi je trouve que c'est bien que cette question reste ouverte, justement.
Oui, Armand
En fait, moi je crois que j'aurais préféré avoir uniquement l'histoire de la main. Je crois que j'aurais aimé avoir moins de son histoire à lui. J'ai trouvé des scènes géniales avec lui, mais en fait, la main m'a embarqué dans un début d'histoire, et après... On me montre le corps, et le truc c'est que... Pardon.
Aïe, dommage, j'ai envie de savoir, Fiona.
Trop tard.
Justement, on va revenir vers l'intrigue, mais pour moi, je trouve que donc l'histoire de la main fonctionne dans le sens où, comme tu l'as dit, Marie...
Il y a un objectif très clair.
Non, tu ne l'as pas dit peut-être. Que cette petite main nous faisait vivre des émotions...
beaucoup d'émotions.
Incroyables. Les rats, c'est horrible. Pigeon même. Tout est vraiment très réaliste et très, très fort. Donc les émotions sont très fortes. Après,
j'ai
pas
compris si le pigeon c'était un piège ou s'il était vraiment endormi et qu'il le chope au dernier moment.
Il le pousse, non ?
Oui, il le pousse, mais il se laisse pousser. Donc la main s'endort.
Ah oui.
Donc il a besoin de se reposer, intéressant.
Oui, la main dort. Je crois que ça marche formidablement bien. Sa quête est très claire, retrouver son corps. L'histoire de Naoufel fonctionne aussi, mais je ne vois pas vraiment la connexion, vous allez me dire, entre la main et son propriétaire. Je ne vois pas en quoi l'histoire de la main, alors vous allez peut-être m'éclairer, apporte quelque chose.
Alors,
c'est l'histoire de Naoufel.
Je pense qu'elle apporte juste... Il y a une scène où, en fait... Là, on va revenir. Là, c'est quasiment le message du film. Tant pis, on va spoiler un peu notre propre podcast. Pour moi, le message du film, c'est, il le dit très clairement, on peut dribbler le destin. Le destin n'est pas une poutre. Et la main a une scène, à un moment où, justement, au lieu de faire le tour de l'autoroute et monte sur un immeuble. Je trouve qu'il fait beaucoup de choses stupides, cette main, mais bon, peu importe.
Elle fait aussi beaucoup de choses très intelligentes.
Et elle s'accroche à un parapluie pour sauter et elle voit l'astronaute. Donc, le rêve de Zepi, c'était, tu vois, t'as arrêté ton destin, donc suis-moi, c'est par là. Et donc, du coup, elle s'accroche. Et je pense que c'est ça qui raccroche la main, qui avait besoin d'un nouveau destin, comme Naoufel, à la fin, qui dit, j'ai besoin d'un destin. Et c'est pour ça qu'à la fin, il saute sur cette grue. C'est pas pour sauter les grues, parce que ça essaie de faire Yamakasi d'un seul coup. C'est drôle, hein, Yamakasi manchot, d'ailleurs, mais bref. Et du coup, pour moi, ce saut à la grue, c'est le symbole de ma vie n'est pas finie. Je vais continuer à vivre, et c'est exactement ce que fait cette main en sautant à travers ce parapluie.
Je suis tout à fait d'accord, mais dès le début, enfin, mais pour autant, bah, les deux nous donnent le même message. Je suis d'accord, c'est la persévérance et le fait de pouvoir choisir, être maître de son destin et oui, le dribbler, comme c'est dit. Mais ceci dit, bah, j'ai quand même du mal à voir. Enfin, ça pourrait être deux courts métrages.
En fait, la connexion se fait à
moyen métrage.
À un certain moment du film, quand les trois lignes temporelles dont tu parlais, Marie, enfin, tu parlais des trois héros, effectivement, il y a trois lignes temporelles. Et quand les trois lignes se recoupent, on met un certain temps quand même à comprendre que sa main, enfin la main c'est la sienne, qu'en fait les trois histoires sont connectées. Et je pense qu'il faut accepter ça justement, que le sens, enfin les histoires sont un peu parallèles et que le sens se fait quand les lignes se recoupent, quoi, et donc plutôt à la fin.
Quand les mains se coupent.
Quand les, voilà.
Oui, Marie.
Ben, moi j'ai l'impression que. Effectivement, dans son enfance, parce qu'il a passé sa main par la fenêtre, ses parents ont eu un grave accident et il est devenu orphelin, donc cette main a brisé son destin. Et en brisant lui-même cette main, il se donne la liberté d'être lui-même. Et finalement, cette main, quand elle le retrouve, quand elle retrouve son corps, elle s'efface. Il y a une très belle scène où elle recule et elle se fond dans la neige. Donc elle a retrouvé son corps, elle a atteint son objectif et pourtant elle s'efface parce que ça lui permet à son propriétaire de vivre pleinement sa vie. Sans cette main, il peut être lui-même.
Du coup, avec cette théorie, que je trouve assez jolie, du coup, ce serait le deuil. Enfin, c'est d'accepter, enterrer sa culpabilité par rapport à ses
oui,
parents.
Oui, complètement.
Okay. Non, ça fait sens.
La culpabilité, moi, je suis d'accord. Enfin, c'est pas vraiment de sa faute si ses parents ont eu un accident de voiture. Quoi.
Bah, c'est mais c'est normal que lui, non, que lui se sente responsable. Quand la dernière chose que tes parents ont dit, c'est attention ta main et qu'il crève.
Oui, attends, attention la route.
Sur l'intrigue, je peux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure.
Ah oui.
Ce n'est pas que l'histoire de
Naoufel,
pardon, j'ai un problème avec le prénom, j'y arrive pas. C'est pas que son intrigue ne m'intéresse pas, c'est qu'on m'a posé un objectif très fort avec la main qui essaie de retrouver son corps et des obstacles physiques extrêmement forts. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a des obstacles tellement forts, elle part tellement de rien. Il y a des enjeux de vie ou de mort sur cette main. Quand tout d'un coup, on me pose après des enjeux, on va dire, amoureux, en fait, avec lui, j'ai un petit peu décroché. Et comme, dès le début, je sais que cette main appartient à lui et que je sais dès le début que c'est sa main qui va être coupée, il y a un côté pendant ce temps, mais pas vraiment pendant ce temps, qui fait que...
C'est un flashback, c'est comment il en est arrivé à perdre sa main. Bah, moi, je pensais que l'histoire allait raconter... Enfin, naïvement, comment il a perdu sa main et comment, enfin, pourquoi cette main est devenue certainement magique et elle est se balader. En fait, non, tout ça c'est une fable et c'est, je suppose, dans sa tête et que c'est un rêve et qu'en fait la main n'a jamais existé. D'ailleurs, pour parler sur l'intrigue, la main, énorme déus, hein, quand même, hein, quand elle est attaquée par les rats et qu'elle trouve par hasard un briquet juste à ce moment-là pour.
Arrête!
Mais je suis désolé.
Je pense que
si t'acceptes la main qui marche toute seule, au bout d'un moment, les déus.
Non, mais c'est pas un déus parce que je pense qu'il y a beaucoup de briquets qui sont tombés dans. C'est juste.
Il y a aussi beaucoup d'écouteurs. Il aurait pu tomber sur un AirPod juste à ce moment-là, ça l'aurait pas
aidé. Il aurait étranglé les rats, ça aurait été pareil.
Ils te font Mission Impossible 4 avec la main. Au bout d'un moment, le briquet, tu dis ouais, génial, j'adore.
Moi j'étais à fond. Comme le parapluie, au moment, le parapluie qui l'emmène exactement là où il voudrait. Mais c'est le problème des films en destin, c'est que.
Ça joue avec le destin.
Si la force qui te pousse, c'est le destin, tu peux rien faire.
En fait, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, parce que grâce à l'analyse pertinente de Marie, je vois le film sous un nouveau jour.
Merci,
en même temps, je l'ai vu ce matin, j'ai pas eu le temps beaucoup de le digérer, entre guillemets. Mais effectivement, si on gardait que l'histoire de Naoufel, elle est intéressante, elle est bien jouée, elle est naturelle, mais elle est pas spécialement passionnante non plus, elle est bien, quoi. Et l'histoire de la main, bah, il manquerait un petit peu, enfin c'est beaucoup une suite d'obstacles, il manquerait peut-être un peu d'émotion, et je pense que effectivement si tu séparais les deux, tu perdrais beaucoup, alors que en les alliant, tu crées un sens, quoi, une cohésion.
Oui, Marie.
Moi je trouve que l'intrigue de Naoufel, elle est forte parce que il y a cette ironie, tu sais que ça va mal se terminer, tu sais qu'il y a un drame au bout. D'ailleurs, moi j'étais persuadée qu'il allait mourir et que en fait ça allait droit vers sa mort, toute cette intrigue, et que parce que comme ça, cette main sort d'une salle de dissection, tu te dis bah cette main elle a pu être coupée, enfin voilà. Mais finalement, ce qui est intéressant dans cette intrigue, c'est vrai, c'est de se dire bah, tous les éléments qui sont mis en place au fur et à mesure du film où il fait des mauvais choix finalement, il lui ment, il la suit.
Dès que tu vois le menuisier, quand même, tu te dis.
Tu vois le menuisier avec les scies, bah, tu sais très bien que.
C'est vrai que dès le début, je me suis dit, mais mets des gants, mec. Enfin, il met pas de gants, pas de lunettes.
Non, les menuisiers, ils font pas ça.
Non, mais ils mettent des lunettes, au moins.
au moins des lunettes. Des bourrées. Mais ils enlèvent tous, non, mais tous les sécurités, parce que sinon tu peux pas travailler correctement. Voilà, c'est ça pour moi que l'intrigue de Naofel, elle est intéressante, c'est sur l'angoisse au fur et à mesure qui monte, et tu sais que ça a mal se terminer, tu ne sais pas comment, et ça, je trouve que c'est bien construit. J'ai trouvé que globalement, c'était un film très bien construit, très bien mis en scène, enfin, incroyablement subtil, beau, élégant, enfin, très, très touchant.
Et alors, dernière question sur l'enregistrement donc, qui traîne partout, qui est quand même un poids énorme d'avoir sur cassette le moment de la mort de ses parents, et qui finit par réenregistrer dessus le moment où il décide d'aller sauter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ?
Moi, je trouvais ça assez super pour le coup.
Le symbole est assez chouette.
Parce que pour moi, c'est soit il rajoute sa mort à celle de ses parents, si jamais il se plante, ce sera plus la mort de ses parents, ce sera la sienne et on s'en fout. Ou alors, il change justement ce destin tragique. Il change la mort par la vie, quoi. Il change ça par un exploit.
Oui, il tourne la page, quoi. Il réenregistre par-dessus un problème qu'il a eu dans sa vie ou un mauvais moment, un drame. Il l'efface, littéralement, quoi.
Et il part en laissant cette cassette derrière lui, donc il va jamais la réécouter. Et c'est passé.
Et petite dernière question, comment il est descendu de la grue, non, je pense. Parce que clairement, elle est abandonnée, elle n'a pas bougé depuis le début de l'histoire.
Il y a des escaliers dans chaque grue.
Ouais, mais c'est fermé, justement pour éviter que les gens montent.
À un moment, je me demandais s'il était mort. Oui, est-ce qu'il était mort sur la plateforme entouré de la neige?
Bah non, justement, il est pas mort. Bon, c'est pas grave. Ok, le thème, on finit par ça. Je l'ai un peu spoilé. Bon,
on l'a dit,
sur
le destin.
On peut lutter contre le destin, vilain destin, méchant destin. Hein, parce qu'il a été dur avec ce pauvre garçon. Il perd ses parents, la meuf veut pas de lui, il perd sa main. On sait pas ce qu'il va faire maintenant, parce que c'est un mauvais livre. Il sait pas faire grand chose, ce garçon.
Pour revenir sur le personnage, on sait pas trop aussi ce qu'est la teneur de sa relation avec son frère adoptif.
S'il
apprécie ou pas, on sait pas bien. Je trouve ça reste un petit peu flou, mais bon.
Ensuite, moi je trouve que c'est juste
Il a pas l'air de
bouffon.
Non, mais il a pas l'air de vouloir l'aimer, alors que j'ai l'impression que le frère a plus d'affection pour Naofel que l'inverse, quoi. Voilà.
Oui, c'est bien possible. Ok, tour final sur ce film, Cédric.
Moi je pense qu'on peut saluer quand même l'originalité de ce film, surtout effectivement sur la construction, les trois lignes temporelles qui sont pas linéaires, et puis on n'a pas parlé de l'image parce qu'on parle du scénario, mais je pense que c'est un film qui coche beaucoup de cases au niveau de l'originalité. C'est un vrai ovni. Et donc, je trouve ça vraiment chouette que ce film existe.
Rappelons que tu bosses avec Guilhem, donc que tu n'es pas totalement impartial. Marie.
C'est très bas.
Si je devais résumer ce film en un mot, ce serait l'audace. Je trouve qu'il y a de l'audace dans la mise en scène, dans l'écriture. Et tout ça fonctionne. C'est incroyablement beau. C'est un des films les plus fous que j'ai pu voir et les plus touchants en même temps. Et tout en étant complexe, il est très simple à appréhender et à regarder, enfin ça se regarde comme ça. C'est un film que j'ai trouvé absolument merveilleux, je le recommande à toutes les personnes. Voilà.
Armand ?
À voir absolument, malgré ses problèmes d'intrigue, je trouve que c'est effectivement très original, c'est poétique, c'est beau, c'est plein d'émotions, c'est extrêmement bien dramatisé et on nous offre des scènes d'action avec une main coupée, ce qui est assez rare.
La chose. Fanny Adams. Fiona.
Oui, je rejoins les autres. C'est très beau. Je crois que c'est le mot que j'utiliserais, c'est beau. C'est très surprenant, très original, comme tu l'as dit, Cédric. Personnellement, je n'ai pas été touchée extrêmement, mais je pense que c'est personnel ou je n'étais pas dedans. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vraiment à voir. C'est un beau film. C'est un très beau film, mais très réussi dans son exécution. Voilà.
Écoute, moi je vais rejoindre Cédric, j'applaudis l'audace. Moi je suis toujours pour quand les gens prennent des risques. C'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est une intrigue qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et même si globalement, je n'ai pas trouvé que c'était le meilleur film de l'année, je salue les prises de risques. Donc rien que pour ça, allez le voir. Donc on passe aux recommandations maintenant. Cédric.
Moi je recommande l'exposition Vampire à la Cinémathèque de Paris. Voilà, c'est la figure du vampire dans le cinéma, depuis Murnau jusqu'à Buffy. C'est assez sympa, il y a une belle scénographie, il y a plein de films à découvrir, et voilà.
Rappelons que tu bosses pour la Cinémathèque de Paris aussi. Non, c'est pas vrai. On vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de C'est quoi le pitch ? À bientôt.